voici 10 ans que ce drôle de bâtiment argenté, orné de perforations, accueille artistes et spectateurs pour parler et faire du cinéma. En plein cœur du quartier Rochambeau et tout au bord du Loir, voici un havre de création où une partie du 7e art international se fait. 10 ans de création donc, 10 ans de rencontres entre artistes et public, 10 ans d'action pédagogique autour du cinéma d'animation dans ce lieu unique en région centre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, la lorgnette s'invite dans la résidence cyclique animation de Vendôme. Bienvenue à tous et à toutes. Et bonjour Eric.
Bonjour.
Eric Reginaud, tu es chargé de mission donc à Cyclique Animation. On va revenir pendant toute cette heure d'émission donc sur ce qui a porté le projet de cette résidence d'animation qui accueille des cinéastes, des réalisateurs et des réalisatrices de films d'animation ici pour souvent plusieurs semaines pour créer, donc comme je le disais en introduction, du cinéma d'animation. Est-ce que d'abord, pour refaire les présentations des gens qui ne connaîtraient pas Cyclique dans son intégralité, rapidement, mais un point de vue général sur ce que c'est Cyclique. En fait, alors moi je connais un peu, j'ai été vendômois, je suis venu prêter main forte pendant notamment les journées du patrimoine, on y reviendra. Voilà, vous comptez sur des bénévoles à quelques endroits ponctuels de l'année, donc je connais un peu la structure, je connais aussi un peu Cyclique. Est-ce que tu peux représenter de manière générale ce que ça représente? C'est un peu le pôle cinéma de la région centre, on pourrait dire ça?
Oui, c'est l'agence régionale. Donc du Centre-Val de Loire pour le cinéma, l'audiovisuel, le livre et la lecture.
Ouais, donc un vaste champ culturel. Si on s'en tient au cinéma, qu'est-ce que Cyclique propose et permet pour le cinéma en région centre?
Eh ben, y a la gestion du fonds d'aide pour le cinéma et l'audiovisuel, mais il y a aussi de la diffusion, donc avec les cinémas mobiles qui tournent avec deux circuits au nord et au sud de la région. La promotion des films subventionnés, un pôle éducation qui s'occupe d'éducation aux images et des archives du film.
Et les archives aussi, hein, voilà, une fonction patrimoniale. Cyclique est toujours en pointe. On en avait beaucoup parlé l'année dernière. Je pense que c'était Cyclique qui pilotait le recueil de films de sport autour des Jeux Olympiques en région centre. Et il y avait eu un cinémobile qui avait tourné aussi sur la région centre pour remontrer des archives de films sportifs. Ouais.
Voilà,
exact. Alors, le siège social est à Château-Renaud.
C'est
donc
ça.
En Indre-et-Loire, pas très loin. Il y a d'autres pôles cycliques en région que Vendôme et Château-Renaud?
Oui, il y en a deux autres. Donc les archives du film qui sont à Issoudun et les cinémobiles qui sont à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Ok. Donc Vendôme et le cinéma, c'est une vieille histoire d'amour. J'ai été vendômois quelques années. Alors pas depuis 1992, qui a vu la création du festival du film de Vendôme. Et en me renseignant pour cette émission, j'ai vu que Cyclique Animation existait avant la résidence de Vendôme et qu'elle était basée à Château-Renaud, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Donc il y a eu un festival du film ici à Vendôme pendant presque 20 ans, c'est ça?
Pendant plus de 20 ans.
Un peu plus de 20 ans, ouais, c'est ça, de 92-2014, j'avais les dates sous le nez. Donc on suppose qu'il y a eu une réorganisation structurelle de Cyclique qui s'est dit que pour plein de raisons, on allait arrêter le festival de Vendôme et qu'il fallait compenser cette perte sur le territoire, c'était un peu l'idée?
Non,
pas du tout.
Au début, pas trop.
Ouais.
L'idée au début, c'était plutôt que Centre Images avait fusionné avec Livre au Centre.
Ouais.
Donc la partie livre et la partie cinéma ont fusionné. Alors, c'était en 2012, je crois. Et en fait, pour une meilleure fusion, l'idée, c'était que les gens de Livre au Centre qui étaient installés à Vendôme aillent à Château-Renaud. Sauf qu'en intégrant les gens du livre, il n'y avait plus assez de place. Et moi, c'était l'époque où je me disais qu'on commençait à manquer de place pour la résidence à Château-Renaud.
Tu étais déjà en charge de l'animation qui se faisait donc du coup à l'époque à Château-Renaud.
Et qu'il fallait plus de place et que pour les résidents, Château-Renaud, c'est une ville qui était trop petite et parfois, le choc était un peu trop violent.
Trop violent.
Quand on faisait venir des gens
de
Montréal ou de
ou de Hong Kong ou
voilà,
tout ça.
Voilà, c'était le début. On commençait à avoir de plus en plus d'étrangers. C'est vrai que ça devenait un peu compliqué. Donc, il y a eu cette idée de venir s'installer à Vendôme. Et à l'époque, il y avait encore le festival. Donc, il y avait une cohérence. Et puis,
Le festival ne s'est pas arrêté parce que la résidence arrivait. Les deux auraient pu cohabiter, mais ça ne s'est pas fait.
C'était un peu l'idée, ouais. Mais après, il y a eu des problèmes de budget, je crois, ouais. Et il a fallu choisir.
Faire des choix. C'est des choix stratégiques qui se sont opérés pour Cyclic. Très bien. Bah, voilà, merci pour cette historique. Donc, en attendant, Cyclic a toujours, en région centre, depuis très longtemps, accueilli du cinéma d'animation. Est-ce que, pareil, pour finir sur l'histoire et revenir sur la partie vendômoise, le système de résidence d'animation était le même à Château-Renaud ?
Non, alors la résidence, au départ, c'était une idée de Denis Valgenwitz, qui était réalisateur de films. Et en fait, c'était le premier film soutenu par la PCVL à l'époque. Et c'était un film en marionnette. Et en fait, c'était un couple de réalisateurs, donc Denis Valgenwitz, Nathalie Patt. Et en fait, ils avaient tourné le film dans leur grange. Et l'expérience a été un peu douloureuse pour eux. Et donc, Denis avait dit à la PCVL, ce serait bien de créer une résidence pour le cinéma d'animation en volume parce que ça nécessite des locaux, une infrastructure spéciale. Et c'est compliqué de faire ça chez soi, contrairement à un film en dessin papier ou dessin sur ordi. Et donc, ils lui ont demandé une petite étude de marché. Et puis après, la résidence a été créée. Et donc, c'était en septembre 2000. Donc, moi, je suis venu travailler avec Denis dès le début.
Toi, tu es à Cyclic depuis le début.
Depuis le début de la résidence, ouais, en 2000.
Okay. Voilà. En 2000.
Et donc, on était à Château-Renaud. Et à l'époque, on aidait un film par an et que en marionnette.
Ah oui, on va voir que ça a bien changé.
Voilà. Ouais. Et puis,
excuse-moi, tu peux juste rappeler ce que c'est. Tu as parlé d'animation en volume pour les gens qui ne sont pas familiers du cinéma. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'animation en volume ?
Donc, l'animation en volume, c'est l'animation avec des marionnettes ou des objets, principalement.
Voilà, merci. Voilà. Contrairement au dessin sur ordinateur ou au dessin animé sur papier ou sur ordinateur. Ouais.
Voilà. Et donc, pendant des années, voilà, on a expérimenté ça. Et puis, petit à petit, on a pu commencer à aider deux films par an. Et puis, à un moment, en 2005, je crois, 2004-2005, on a décidé d'ouvrir les aides aux films en banc-titre, parce qu'il n'y avait pas tant de films que ça qui se faisaient en volume, et donc parfois, on manquait un peu de projets. Donc, on a ouvert aussi aux banc-titres, puis c'était aussi une idée d'expérimenter encore plus et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc, on a commencé à aider les films en banc-titre.
Ça rappelle ce que c'est un film en banc-titre.
Les films en banc-titre, alors, ce sont les films qui se font. Alors, le banc-titre, c'est une structure avec des plaques, soit des plaques de bois, soit des plaques de verre.
Ouais.
Et avec la caméra qui est en potence à la verticale au-dessus des plaques, et donc qui filme à la verticale. Et donc, les techniques en banc-titre, donc c'est le papier découpé, la peinture sur verre, le sable sur verre. Voilà, donc on a commencé avec cette technique-là, et puis petit à petit on s'est ouvert après.
Et en fait, on voit que c'est un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'un film en appelle un autre, une technique en appelle une autre, et la structure et les accueils se sont multipliés au fur et à mesure que vous commenciez à être reconnu par le système en fait, de fabrication du cinéma d'animation au national, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, c'était... Le mot expérimenter, ça a toujours été un peu ça qui a mené la résidence. C'est tester des choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis petit à petit développer des choses. Et puis vu que ça marchait plutôt bien, on nous a permis d'aider de plus en plus de films, d'ouvrir à de plus en plus de techniques. Ce qui fait que maintenant, on aide quasiment toutes les techniques, à part la 3D.
Ouais, ok.
Voilà.
C'est un choix politique.
C'était un choix. C'est vrai qu'à l'époque, quand on a commencé, tout le monde se jetait sur la 3D. Donc on s'est dit, si tout le monde va y aller, on va peut-être pas y aller. Ça ne sert à rien
d'aller sur un marché où déjà
les
propositions de résidence sont.
Et puis après, ça, en termes de résidence, ça nécessite aussi des infrastructures encore plus lourdes, avec des logiciels encore plus lourds, des ordinateurs encore plus puissants. Et qu'au bout d'un moment, on ne peut pas non plus tout faire. Donc parfois c'est bien aussi de savoir s'arrêter.
Parlons de Cyclic Animation. Qu'est-ce qu'on y fait ? Qui on accueille ? Qui sont les résidents ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on vient faire des films d'animation ici à Vendôme ?
Le principe de Cyclic Animation, donc, c'est d'accueillir en résidence des réalisateurs et réalisatrices qui vont venir travailler sur une partie de leur film suivant l'aide qu'ils vont obtenir. Donc on donne des aides à l'écriture, au développement ou à la production. Mm-hmm. Et donc, suivant l'aide, les gens sont obligés de faire des résidences plus ou moins longues. Donc, quand c'est les aides à l'écriture, en général, c'est un mois.
Ouais.
Les aides au développement, c'est deux mois. Et les gens doivent venir travailler sur le développement du film. Et les aides à la production, c'est des résidences qui durent entre 4 et 6 mois, en général. Et là, les résidents doivent venir faire toute l'animation du film en résidence, jusqu'à 6 mois. Et puis, parfois, on a des résidents qui ont besoin de plus et qui veulent rester plus longtemps. Parce qu'ils ne veulent pas scinder la production du film en deux. Et donc, vous verrez ça avec Ange tout à l'heure, mais donc Ange qui va rester un an en résidence pour faire son film.
Donc, on pense souvent, quand on parle de cyclique animation, que les gens viennent y réaliser les films d'animation, mais en fait, c'est tout le système de production d'un court-métrage, pas que de court-métrage d'ailleurs, il y a des longs qui sont produits aussi.
Il y a aussi des longs et des séries ou spéciaux télé.
Pour la télé qui sont produits, mais effectivement il y a aussi l'écriture et le développement des films qui peuvent être produits ici, fallait qu'on le rappelle. Tu l'as déjà dit donc Eric, tous les genres d'animation sont accueillis, toutes les façons de faire des films d'animation sont accueillies ici. En préparant l'émission et en connaissant évidemment la structure, je me suis rappelé que vous faisiez de la marionnette. Est-ce que, et pour parler de l'ancrage local, est-ce que ça donne des ponts avec l'Hectare, par exemple, qui est centre national de la marionnette ici à Vendôme? Est-ce que donc au local, il y a de la synergie, notamment sur la marionnette, entre la résidence cyclique qui fait des films d'animation et l'Hectare qui propose du spectacle vivant autour de la marionnette? Comment ça s'organise?
Bien sûr, c'est vrai qu'on a régulièrement... on est régulièrement en lien avec l'Hectare.
Ouais.
Donc, au niveau professionnel, on a de temps en temps accueilli des résidences de théâtre.
Ouais.
C'est-à-dire que de temps en temps, l'Hectare nous demandait s'il était possible d'accueillir une compagnie qui était en phase de préparation d'un nouveau spectacle. Parce que les lieux qu'on utilise pour l'animation, en fait, sont adaptés à justement la création de spectacles. C'est au niveau de la taille, au niveau de l'infrastructure qu'on propose, ça peut être assez adapté. Donc on a eu 4 ou 5 spectacles qui ont été créés ici avec 4 ou 5 compagnies qui sont venues en résidence ici.
Donc là on est dans le circuit court le plus pur, c'est-à-dire que créer dans les locaux de Cyclique Animation et présenter dans la salle de spectacle qui est à moins de 400 mètres à l'Hectare. Quoi.
Alors, c'est pas créé entièrement ici.
Oui, bien sûr, oui.
Mais c'est créé en partie parce que souvent, les spectacles de théâtre nécessitent plusieurs phases de résidence pour que le projet mature. On a fait ça aussi une fois avec Figure Libre sur un spectacle musical.
Mm-hmm.
Voilà. Cette année, par exemple, l'Hectare aussi nous a sollicité pour accueillir pendant une journée des étudiants de l'École nationale de la marionnette de Charleville qui étaient venus, on avait une douzaine d'étudiants, je crois, qui étaient venus au festival avec ou sans fil. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait leur préparer un parcours d'une journée avec une rencontre de résidents, projection de films, une visite de la résidence, et ainsi de suite.
Est-ce que ça nécessite, et ça me permet de glisser vers ma prochaine question, de savoir comment toi, en tant que chargé de mission, tu organises les résidences? C'est toi, j'imagine, qui a la vision globale de la structure. Est-ce que ça nécessite ce lien-là, notamment avec l'Hectare et la dynamique marionnette sur le Vendômois, à te dire que tu te forces, entre guillemets, à accueillir faut que tout le temps de la marionnette qui soit réalisée ici? Pas du tout, c'est pas du tout une prérogative.
Non, pas du tout.
Ma question suivante, c'est comment on sélectionne les projets qui viennent en résidence ici?
Sur les liens avec l'Hectare, il y a aussi des liens qui se font sur la médiation.
Ouais.
Parce que c'est vrai que tous les deux ans, quand il y a le festival avec ou sans film,
la biennale,
on essaie de labelliser une ou deux séances vraiment sur avec ou sans fil, donc ça va être des séances plutôt d'animation de marionnettes. Donc il y a aussi des échanges sur la médiation avec Héloïse. Sur l'organisation, nous en fait ça dépend des projets qu'on reçoit. Donc il y a des périodes où on a très très peu de projets en marionnettes qui sont envoyés.
Oui.
Et ce n'est pas forcément ceux-là qui vont être soutenus et accueillis. Et puis parfois, on en a plein. Donc ça dépend aussi de ce qui se produit. On ne va pas forcément se dire, vu qu'il y a l'Hectare qui est là, on va s'obliger à prendre un film en marionnette tous les ans.
Et alors, en termes de projet, qu'est-ce qui guide les choix voilà, est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le réalisateur qui a déjà fait un film ici? Comment sont choisis les résidents et les résidentes qui viennent?
Ça, en fait, ça dépend. Il n'y a, ouais. a pas de règles.
Il n'y a pas de règles.
Alors déjà, pour les aides à la prod court-métrage, donc il y a des appels à projets qui sont faits deux fois par an avec un jury qui va sélectionner les projets. Et bon, le jury change tous les ans. Et donc, le jury, on ne peut pas savoir ce qu'il va choisir à l'avance. On peut donner une couleur, mais on ne possède pas l'âme des gens. donc, rien n'est jamais sûr. Donc après, on peut aider des films sur toutes les techniques, excepté la 3D, comme je disais.
Ouais.
Et ça peut être des films pour enfants, des films pour adultes, des films narratifs, des films expérimentaux. Des premiers films, des films de gens expérimentés, il n'y a aucune règle, c'est vraiment la qualité du projet, le fait de répondre à un sujet qui va être aussi dans l'air du temps à un moment, le fait de la qualité plastique aussi du projet, il y a plein de choses. Le choix d'un projet, c'est assez insaisissable, en fait, parce que tout dépend de... Ça dépend de l'instant aussi.
Ça répond à une sensibilité à un instant T.
C'est une insensibilité à un instant T, et peut-être que deux jours après, ce ne serait pas le même résultat. Voilà, c'est...
Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, une contrainte logistique? Vos locaux sont spacieux. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'y traîner un peu. Est-ce qu'on pourrait accueillir, je reviens à la marionnette ou même au dessin papier, est-ce qu'on pourrait accueillir six films de marionnettes en même temps? J'imagine que là, il y a une contrainte logistique qui se pose. Et ça me permet de te demander quels sont les locaux à disposition. Vous avez des studios, des bureaux, etc. Comment c'est organisé en termes de logistique?
Alors, il y a une contrainte logistique, mais ça n'a jamais été la contrainte logistique qui a
porté la retenue ou non d'un projet.
Voilà. Ce sont les projets qui sont importants, et après, on se débrouille pour que tout ça rentre dans le planning de la résidence.
Et après, un projet qui serait en doublon logistique serait peut-être décalé à l'année suivante.
Voilà, on sera décalé. Ouais. Après, de toute façon, les projets, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont arriver, parce que il y a leurs envies de venir en résidence, puis il y a la réalité en termes de préparation du film, de financement du film. Donc parfois, il y a des films, ils vont en quelques mois obtenir les financements, puis parfois, ils ont besoin de deux ans et demi pour trouver les financements. Donc, on ne peut pas nous dire ce film-là, on l'aide là, il va venir là. C'est à peu près sûr que ça ne viendra absolument pas à la date prévue.
Ça aussi, c'est relativement insaisissable dans une chronologie, quoi.
Voilà. Donc, on sait à peu près combien de films on peut aider par an.
Ouais.
Et en gros,
de l'ordre de...
C'est à peu près une vingtaine.
Une vingtaine, ah oui.
Voilà. Effectivement. Mais on ne sait pas qui vient quand.
Ouais, ok.
Voilà. Et ça, c'est le travail de Simon, qui est le régisseur de la résidence, et lui, son boulot, c'est le roi du Tetris. Donc, c'est de faire entrer entre 20 et 25 projets par an dans le planning de la résidence, avec les locaux et les appartements et le matériel aussi. La question du matériel.
Tu fais bien de le dire, quand on vient en résidence, on habite aussi, peut-être pas tous, mais effectivement, une partie des gens habitent les locaux qui sont au-dessus de la résidence. Là, dans
on a quatre appartements et les résidents, la plupart des résidents logent ici, mais les producteurs sont obligés de louer aussi des appartements en dehors à des propriétaires de la ville.
Tu parlais de Simon, donc quel régisseur et qui gère justement ce Tetris organisationnel qui est l'accueil de 20 films par an. On peut parler d'Héloïse, puisque le volet d'action pédagogique, d'action culturelle est aussi une des grandes missions, peut-être la mission la plus visible, puisque les résidents, même s'ils sont aussi visibilisés par l'action pédagogique et des rencontres, ne sont pas, on peut pas venir voir les résidents travailler tous les jours. Par contre, cette fameuse salle argentée que je mentionnais au tout début dans mon introduction se cache un petit cinéma à l'intérieur avec de l'action pédagogique et évidemment des projections.
C'était un peu ce qui était aussi au cœur du projet quand on est arrivé à Vendôme. Et ce qu'on ne pouvait pas faire à Château-Renaud, c'était d'ouvrir la résidence sur les habitants. Donc, c'est vrai que quand on est venu ici, tout de suite, ça a été
c'était non négociable,
le gros projet nouveau, c'était de se dire, on va ouvrir la résidence aux habitants pour qu'ils viennent voir ce qui se passe dans ce lieu étrange et que les résidents puissent aussi communiquer avec les habitants et partager les projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Donc on a donc Héloïse qui s'occupe de tout travail de médiation. Donc c'est elle qui fait la programmation, donc qui compose tous les programmes qui vont être montrés pendant la saison. Donc on diffuse principalement dans notre salle ici, une petite salle de 48 places, mais on fait aussi des séances au Ciné Vendôme, au Centre culturel des Rottes. Et puis il y a de plus en plus de séances qui sont délocalisées dans les villes autour. Aussi. Et donc ce sont des séances de films, donc soit pour le jeune public, soit pour les adultes. Mais on a aussi régulièrement des rencontres avec les résidents. Donc c'est une sorte de work in progress où le résident explique au public le film sur lequel il est en train de travailler.
Et donc là, on peut supposer que le réalisateur ou la réalisatrice qui a déjà fait un mois chez vous vienne déjà projeter ce qu'il a réalisé ou des esquisses qui sont projetées, ce genre de choses.
Alors il ne projette pas d'images finies, parce que même s'il a animé des images, il y a toujours des choses à refaire dessus en post-production. Mais oui, ça va être vraiment parler du film à un instant T, quel est son état de fabrication, de raconter quel est le parcours de création de ce projet, quelle est la technique, comment ça se fait, et puis montrer les différentes phases de travail au public, et puis de répondre à toutes les questions que cela suscite.
Donc tu parlais de la rencontre avec les résidents, je voudrais qu'on parle aussi dans ce volet pédagogique de l'école du regard. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Non ?
Alors l'école du regard, l'école du regard, c'était un atelier qu'on mettait en place depuis la création, depuis 10 ans. Donc c'était un atelier de discussion. Donc en fait, c'était un atelier où on montrait 4 films très courts de 5 minutes maximum sur une thématique donnée. Et au public qui était là. Et après, on séparait le public en 2 groupes et on les faisait discuter entre eux des films. Donc discuter des films pour savoir est-ce qu'ils aimaient ces films-là ou pas, pourquoi ils les aimaient ou pourquoi ils ne les aimaient pas. Et puis aussi, comment ces films répondaient à la thématique, est-ce que ça répondait bien ou pas. Voilà, donc il y avait un échange qui durait une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Et à la fin, on demandait aux gens de voter, d'élire un film, et ce film était intégré au programme qui avait lieu 1 à 2 mois plus tard sur la même thématique. Et on demandait à une des personnes qui avait voté pour ce film de venir le présenter au public.
Et donc voilà. On peut parler du fait que l'école du rire n'est plus d'actualité. Je voulais en parler un peu plus tard dans l'émission, mais effectivement, j'avais pas saisi que le programme était arrêté, en tout cas au moins temporairement, mais peut-être définitivement en fonction de comment évolueront les choses. Donc effectivement, on voit dans le petit livret qui a été distribué pour ces 10 ans, c'est la raison nous pour laquelle on vient, mais j'ai découvert que, comme pour beaucoup de structures culturelles et artistiques, les temps étaient durs financièrement.
Bah oui, voilà, il y a en ce moment il y a des coupes budgétaires à beaucoup d'endroits, donc on a aussi été touché par ça, donc c'est vrai qu'on a dû
faire des choix
et supprimer une partie de la programmation.
Et c'est l'école du regard qui
et fait notamment l'école du regard.
Je voudrais qu'on parle du rôle et de la géographie du lieu. Donc tu parlais, on a compris qu'il fallait ouvrir un petit peu à une ville à la fois un peu plus grande pour des réalisateurs qui arrivaient de loin. Donc cette résidence dans Vendôme, comment le lieu, la résidence, elle se vit et elle se voit pour les habitants. Donc on comprend aussi, justement avec ce que tu viens de dire, que les habitants sont au cœur du projet, ils sont invités régulièrement à venir rencontrer les réalisateurs, voir des films pour les ciné-petits-déj, pour les projections jeunes publics, etc. Est-ce que ça crée, mine de rien, une dynamique autour de la résidence dans Vendôme, la présence des réalisateurs, etc.
Je pense que oui, parce que c'est...
On demandera à Ange tout à l'heure, évidemment.
C'est vrai qu'on a pu faire, il y a quelques mois, une soirée avec des usagers pour savoir un peu comment ils percevaient l'action de Cyclique à Vendôme. Et c'était très touchant, en fait, d'entendre les gens parler de leur relation à Cyclique Animation. Et on avait aussi et vraiment les gens ce qu'ils aiment ici, c'est de découvrir des résidents et leurs projets, de savoir comment ça se passe, de découvrir les films après une fois qu'ils sont terminés. Et puis Héloïse avait aussi des retours de parents qui amènent leurs enfants aux séances jeunes publics et qui lui disaient que la culture cinématographique de leur enfant avait été faite chez nous.
Mmh. Et on sortait des Disney, des Pixar. Des grosses machineries, voilà, c'est ça, voilà. C'est le mot que je cherchais, des grosses machines.
Des grosses machines et que, en fait, l'expérience cinématographique de leurs enfants s'était construite à Cyclic Animation.
Avec une grande diversité de propositions, voilà. Comme on disait.
Et donc, c'était assez c'est touchant de voir finalement qu'on compte pour les gens. Et c'est vrai qu'on voit d'année en année où les gens attendent le programme et de plus en plus les gens s'inscrivent sur des séances, notamment pour le jeune public, sur la saison complète.
Ouais, ok.
C'est-à-dire que dès le mois de septembre, ils nous envoient en disant. Ben voilà, on réserve pour toutes ces séances-là.
Il n'y a plus de place pour les nouveaux, quoi.
Et voilà, si, il y a toujours de la place, finalement. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une appétence et une vraie envie de
répondre à vos propositions.
On voit aussi, pour les journées du patrimoine, on est ouvert en général les deux après-midi, samedi, dimanche. Au début, on faisait ça parce qu'on avait fait ça pour l'ouverture. Et on s'est dit, on va faire ça quelques années, puis on va arrêter.
Ouais.
Parce qu'au bout d'un moment, l'intérêt va décroître. Puis en fait, non, ça ne décroît pas. C'est finalement, tous les ans, il y a toujours autant de monde qui vient. Et ce qui fait qu'on n'a jamais arrêté de faire les journées du patrimoine. Et cette année, on a ouvert un après-midi le vendredi pour les scolaires.
Ok. Ah oui,
parce
donc
que c'est vrai que le week-end, c'est compliqué de faire venir des scolaires.
Ouais.
Et il y avait aussi cette demande de certains établissements de pouvoir visiter la résidence, même si je dis que... Bon, on n'est pas dans un zoo, on ne vient pas voir les résidents comme des animaux dans leur cage.
Bien sûr.
Mais malgré tout, il y avait cette envie. Et donc, Héloïse a proposé qu'on ouvre une demi-journée pour les scolaires aussi, pour qu'eux aussi puissent visiter la résidence comme les autres habitants.
Je le disais en début d'émission, moi, j'ai pu, je crois, juste la première année. Après, j'ai plus habité Vendôme, mais je suis venu contribuer aux journées du patrimoine une fois, il me semble. Et effectivement, c'est un super moment, puisque au-delà de l'aspect effectivement un peu zoo, on voit les résidents au travail et ça permet vraiment, alors en restant tout à fait respectueux, etc. Mais il y a le film en train de se faire qui est en train de s'écrire devant nos yeux, ce qui n'est pas forcément proposé avec une rencontre avec les réalisateurs et les réalisatrices. Donc il y a vraiment ce côté work in progress qui s'ouvre au commun des mortels, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant que vous puissiez proposer ça. Du point de vue des artistes et des créateurs, qu'est-ce que ça leur fait d'arriver ici à Vendôme? Tu le disais, ils peuvent arriver de Montréal, de Hong Kong, d'Amsterdam, etc. Et donc, ils débarquent à Vendôme. Malgré tout, si c'est pas Château Renaud, ça doit quand même faire un petit choc, malgré tout.
Alors, maintenant, je pense que c'est moins un choc, parce que la notion de résidence et l'expérience de résidence en animation devient quelque chose d'assez courant, finalement.
Ouais, okay.
Parce qu'il y a beaucoup de résidences d'écriture qui se sont développées. Et c'est vrai que
notamment dans des zones rurales et ce genre de villes moyennes.
Rural ou pas, parce qu'il y a des résidences comme Fontevraud, donc c'est à l'abbaye de Fontevraud. Fontevraud, c'est un petit village aussi, beaucoup plus petit que Vendôme.
Oui.
Mais il y a des résidences qui se font à Montréal, à Meknès, qui sont vraiment dans des villes, dans des grandes villes aussi. Donc, Il y a toutes sortes de résidences, mais en tout cas, c'est vrai que ça devient pour certains réalisateurs. Certains réalisateurs se sont aussi construits avec les résidences, parce qu'il y en a qui ont une appétence pour ça, parce que c'est une expérience collective. Et ça devient de moins en moins un choc et quelque chose et de moins en moins une découverte. Beaucoup de gens maintenant, beaucoup de réalisateurs sont passés par des résidences à un moment de leur carrière. Et puis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là? Alors déjà, il ne faut pas se voiler la face. Il y a souvent une dimension financière. C'est-à-dire qu'il y a des subventions qui sont attribuées. Donc c'est important pour pouvoir faire le film. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de cette expérience pour des raisons diverses. Ça peut être s'extraire de son quotidien et pouvoir trouver une période où ils ne vont faire que le film. Et rien d'autre, et ne pas s'occuper de leur quotidien, même si ils s'extraient de leur quotidien normal, mais ils se recréent un quotidien
ici, de travail
exceptionnel ici.
Ouais.
Et puis c'est une expérience collective, c'est une expérience où ils vont vivre aussi avec leur équipe, mais ils vont vivre aussi avec d'autres équipes, ils vont partager des locaux avec d'autres équipes.
Voilà, je voulais t'interroger sur l'intelligence collective, la création collective à l'œuvre quand un réalisateur de film d'animation en volume vient avec quelqu'un qui va réaliser sur ordinateur. Ils ne font pas le même métier, entre guillemets. En tout cas, ils ne travaillent pas l'art de la même manière. Mais pendant 6 semaines, 8 semaines, souvent plus, ils vont se rencontrer et partager des temps. Et on imagine que ça crée beaucoup d'émulation.
Oui, c'est comme je disais, une expérience commune, c'est-à-dire qu'ils viennent d'horizons différents. C'est vrai que là, en ce moment, on a des gens qui viennent des États-Unis, d'Argentine, on a des Français aussi, quand même. dès début janvier, on va avoir une Coréenne qui va arriver bientôt. En janvier, on va avoir un couple, l'homme est croate, la femme est estonienne. Donc voilà, on a des gens qui viennent de partout, qui viennent faire des films dans toutes les techniques. Et c'est aussi ça, l'expérience de la résidence. C'est une espèce de melting pot, c'est de grands pots où on met plein de gens qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais finalement qui ont beaucoup à voir ensemble, parce qu'ils ont tous une ouverture, une curiosité, et puis une envie de découvrir l'autre. Et c'est vrai que régulièrement, alors ils ont là un réfectoire où ils peuvent tous déjeuner ou dîner ensemble. Et puis après, ils vont aussi régulièrement se voir les uns les autres pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et puis aussi pour se demander des conseils, parfois, ou des retours sur leur film. C'est gens qui ont besoin de ça aussi.
Chaque semaine dans La Lorgnette, on vous propose une recommandation, un documentaire, un podcast, un article de journal qui parle du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Cette semaine, évidemment, on parle de cinéma. Je vous propose donc d'écouter un making-of.
On n'est pas bien là, ma poupoune.
Moi non plus, sinon je vais vomir. Ils mettent la langue.
Wesh, vas-y, barrez-vous là.
Vite, on se casse.
Bonjour, c'est Loïc Espuche, je suis le réalisateur de Burk. Alors Burk, c'est un court-métrage d'animation qui raconte l'histoire de Léo, c'est un petit garçon de 7 ans et demi, qui comme tous ses copains du camping, il crie Burk à chaque fois qu'il voit un bisou. Mais Léo, il a un secret, c'est que quand il regarde Lucie, la petite fille de la tante d'à côté, pouf, sa bouche se met à briller de mille feux. L'idée de ce film, elle est née pendant la projection de mon précédent court-métrage dans une salle remplie d'enfants. Et en fait, c'était l'histoire d'un soldat qui partait à la guerre et au tout début du film, il dit au revoir à sa fiancée en lui faisant un petit bisou. Et là, tous les enfants dans la salle, ils se sont mis à faire « Ah, Burk, je regarde pas, il va lui faire un bisou, c'est dégueu !» Et je me suis dit « Mais il faut absolument faire un film sur les bisous et les réactions qu'ils provoquent chez les enfants. » Et c'est là qu'est apparue l'idée de bouche rose pour symboliser l'envie de faire un bisou. Ce concept, il m'a permis de parler avec humour et légèreté de thèmes comme la naissance des sentiments, de la peur du regard de l'autre, mais aussi de la notion de jardin secret.
Ce concept de bouche rose, ça a impliqué en fait d'avoir un langage cinématographique vraiment particulier pour Burk. Ça a impacté vraiment tous les aspects du scénario au compositing, en passant par le color script, le graphisme et même le son.
Scénaristiquement, c'était génial pour créer du conflit, parce qu'en fait, c'est hyper dur de cacher que t'as envie de faire un bisou quand ça s'affiche en gros sur ta bouche.
Vous avez vu ?
Et en même temps, ça permettait de mettre le spectateur directement dans la confidence du secret de Léo.
Et ça nous permettait aussi de rejouer différemment la scène classique de la déclaration d'amour, parce que le petit Léo, du coup, il va pas aller voir Lucie et lui dire qu'il a envie de lui faire un bisou ou qu'il l'aime. Non, il va juste lui montrer sa bouche et ça va s'afficher sur son visage.
Hi Léo, ça va ?
Tout le graphisme du film, il a été pensé en fonction de ce concept de bouche rose. C'est-à-dire qu'on a fait un graphisme assez simple, sans trait de contour, pour laisser vivre la couleur au maximum. On a aussi tout pensé en aplat, pour venir contraster à fond avec les bouches qui, elles, ont de la texture pailletée qui scintille.
Les bouches roses dans Burk, c'est l'élément central du film, donc il fallait absolument lui trouver un son. Donc on a cherché à trouver un élément de base qui soit le plus concret et musical possible. Et on a fini par trouver le bâton de pluie, dont les petits grains évoquent vachement ce crépitement musical et joyeux sur les lèvres.
On a fait un tournage avec des vrais enfants et c'était un moment qui était génial, même si c'était complètement épuisant. Et en fait, ça nous a permis d'avoir vraiment un ton et une énergie pour le film. On a enregistré sans animatique, de manière à laisser les enfants complètement libres de leur jeu. C'était aussi un enregistrement qu'on a fait dans un espace très grand. Comme ça, les enfants, ils étaient libres de leurs mouvements et on les a perchés. Et ça nous permettait de les laisser jouer pas que en termes de voix, mais aussi de laisser leur corps s'exprimer.
Vous avez vu ?
Et ensuite, le challenge, ça a été que toute la vie qu'on avait dans les voix, d'arriver à la retrouver dans l'animation.
On mange quoi ?
Des brochettes.
Moi, je préfère les merguez.
En fait, j'avais pensé le design des persos de façon à ce qu'il soit assez simple, pour que les animateurs et les animatrices, ils n'aient pas à se concentrer sur la complexité du dessin, mais vraiment qu'ils mettent toute l'énergie sur les intentions d'animation. L'animation, elle a pris 8 mois, et en fait, avec toute l'équipe, on était en résidence à Cyclic, dans le centre de la France, à Vendôme, et on était tous en coloc, et c'était un moment où, humainement, c'était incroyable.
Donc Loïc Espuche, en coloc, ici, à Vendôme, pour créer le film Burk. Mmh. Eric, tu peux nous en dire un petit mot, quand même ?
Oui, c'était une belle expérience, voilà, parce que après pour plusieurs raisons.
Et il
n'a
même pas
raisons.
Été payé pour dire ça, j'ai l'impression qu'il était ravi d'être en coloc avant demain.
Non, même pas. Non, c'était une belle expérience parce que le projet était juste super, voilà, parce que c'est un petit bijou de précision, d'humour, de tendresse. Et donc, c'était très bien de pouvoir aider ce film. De toutes les façons, parce que Loïc est aussi quelqu'un de vraiment gentil et talentueux, et c'était aussi un plaisir de l'avoir en résidence avec son équipe. Quasiment tous les gens qui étaient dans l'équipe connaissaient déjà la résidence.
Ils étaient déjà,
venus pour d'autres projets, donc ils avaient aussi un peu leurs habitudes, et c'est vrai que ils ont fait une grande coloc ici pendant quelques mois.
Ça avait l'air top, voilà. Si je peux me permettre. J'ai choisi Burk, j'aurais pu en choisir d'autres. C'était aussi pour signaler quand même. Alors, j'imagine qu'on ne sélectionne pas des projets pour ça, pour leur pertinence et leur force narrative et émotionnelle. Mais depuis 10 ans que la résidence existe, Burk, L'heure de l'ours, Pépé le morse, La vie sexuelle de mamie et La nuit des sacs plastiques ont été des courts-métrages d'animation qui ont été césarisés. Mine de rien, il y a un côté prestigieux, j'imagine qu'on est fier quand même. On fait pas ça pour ça, mais ça renforce la pertinence du projet, j'imagine.
Je sais pas si ça renforce la pertinence du projet. On ne peut jamais savoir, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on sélectionne un projet, mais c'est la même chose que quand on juge un film une fois qu'il est fini. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on met plusieurs personnes en commun, c'est tout dépend de ses individualités et puis de ce qui s'est passé la veille, le jour même. Est-ce qu'on est de bonne humeur ? Est-ce que ça va ? De quel autre film il y a en face ? Et tout ça, on peut pas faire de pari sur les choses. Donc, c'est sûr qu'on fait jamais ça pour ça. Après, ça, c'est plaisant. C'est plaisant parce que on voit des gens qui triment pendant des mois, des années, à essayer de faire vivre un film, et
qui doutent, qui désespèrent parfois,
qui sont parfois à deux doigts d'abandonner parce qu'ils n'en peuvent plus, et en fait, d'un seul coup, ils sont reconnus par leur père, ils sont reconnus par la profession, et puis ça vient saluer que oui, ils n'ont pas fait ça pour rien, voilà, donc c'est super pour eux, c'est super pour nous aussi parce qu'on est très content qu'un film soit passé là et soit reconnu et ait des prix un peu partout.
Et quand je dis qu'il est reconnu au national, il peut être aussi reconnu à l'international. Certains des courts-métrages qui ont été produits ici vont plus loin, vont jusqu'à des nominations aux Oscars aussi ou à d'autres grandes cérémonie prestigieuse. Je pense évidemment à Annecy et à Clermont-Ferrand qui sont en France en tout cas deux lieux importants pour montrer du cinéma d'animation dans deux spécialités différentes. Le court-métrage, alors court-métrage général pour Clermont-Ferrand, mais j'imagine qu'il y a des court-métrages d'animation qui y sont projetés, et puis Annecy plutôt pour les longs-métrages, mais en tout cas que de l'animation. Pareil, quels sont les liens avec ces deux gros festivals?
Clairement, on n'a pas tant de liens que ça, à part le fait que tous les ans, il y a des films qui sont sélectionnés. Mais... Et par contre, bah, Annecy, on a plus de liens depuis 20 ans maintenant, parce que c'est vrai qu'on y va tous les ans, parce que c'est un peu le rendez-vous. Voilà, c'est un peu notre canano. Et puis, on a tous les ans des films sélectionnés là-bas. On a un stand au marché du film, et puis on est partenaire des pitchs aussi. On remet tous les ans un prix à un projet de court-métrage qui va être pitché, ou de long-métrage, ou de projet télé. Voilà, donc c'est vrai qu'on a... sont des rendez-vous importants.
Là, on parle d'un lieu qui est très vivant et qui est un haut lieu de création. Je trouvais malgré tout qu'il était difficile, peut-être, tu vas me confirmer ou pas, de voir pour le grand public des films, des courts-métrages d'animation hors festival. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Est-ce que tu le nuances en dehors des festivals? Ou est-ce que maintenant il est possible de voir? J'ai l'impression que quand même la télévision, même s'il reste des investissements, du service public notamment, ont quand même un peu désengagé la visibilité des courts-métrages d'animation.
Alors, c'est pas impossible, il faut le vouloir, mais c'est possible.
Ouais.
En fait, il faut juste chercher un peu. C'est sûr, c'est pas les films les plus visibles et les plus mis en évidence facilement, mais les films d'animation, on en voit maintenant quand même en salle. Ouais. Même des courts-métrages, parce qu'il y a de plus en plus de programmes de courts-métrages qui sortent en salle, alors plutôt jeune public, mais maintenant il y a aussi des distributeurs qui travaillent sur les films.
Oui, j'allais dire, notamment le cinéma adulte, l'animation, le court-métrage animation adulte est plus difficile effectivement à voir.
C'est plus difficile, mais il y en a aussi maintenant en salle. Alors pour les habitants de Vendôme, évidemment ils peuvent les voir chez nous, donc ça c'est bien. Mais après, à la télé, il y a quand même trois chaînes qui proposent encore du court-métrage d'animation. Donc principalement France Télé, Arte, et puis aussi Canal.
Ouais.
Mais on a aussi des chaînes locales maintenant qui coproduisent des films. Mm-hmm. Donc Bip TV et Val-de-Loire Télé.
Super.
Donc c'est quand même important de le signaler. Tous les ans, il y a trois courts-métrages d'animation qui sont coproduits. Donc c'est très important. Et puis, on peut les voir aussi sur Internet, sur des plateformes. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut chercher.
Ouais,
c'est
une démarche. Ouais, ouais.
Voilà, c'est une démarche
volontaire.
Puis après, il y a des festivals, bien sûr. Donc il y a pas mal d'occasions quand même. Si on veut se donner la peine, il y a pas mal d'occasions d'en voir.
Eh bien, on termine pour cette première partie sur cette note, et on encourage évidemment les auditeurs et les auditrices de Studio Zef à se rendre au Lobis et à Blois et ici à la résidence cyclique animation pour régulièrement pouvoir trouver des projections de courts-métrages d'animation, qu'ils soient alors majoritairement pour le jeune public, on l'aura compris, mais aussi pour les adultes. On fait une pause musicale et on termine cette émission sur Cyclique avec un invité actuellement en résidence ici. À tout de suite. I want you say... Goodbye, I want you to say
cocodrilo, si me siembran con soja y me llenan de silo, me pisan los pies y me dicen cariño.
Inyectame el vacilo porque quiero vacilar y cierra la ventana, pues no vuelvo nunca más.
Quiero decir, ya fue, I want you to say goodbye.
Ya fue. clavados y con crucifijo. Me sueltan los lobos y los cocodrilos y me plantan con soja y me llenan de silo. Me pisa los pies y me dice cariño.
I want to say goodbye. Le titre de cette pause musicale était tout trouvé puisqu'il sert d'accompagnement musical au court-métrage de 1-1, à l'un des courts-métrages même de notre invité. Bonjour Ange Potier.
Bonjour. Alors, je suis vraiment très très heureux d'apprendre et de voir que vous avez passé ce clip, en fait ce morceau musical I want to say goodbye de mon ami Carlos Massinger, qui est un grand ami avec qui on a fait plein de projets sur scène, tout ça. Et alors là, d'être en France à Vendôme et de savoir qu'il y a sur les ondes quelque part
ta chanson est passée sur, les ondes.
Qui passe, qui est un super beau thème, ça me fait. Je suis très étonné, je suis très surpris et ça me fait très plaisir. Donc, belle entrée en matière, merci.
Avec plaisir. Et donc, pour t'interviewer et savoir un peu plus sur ta présence ici à Cyclic Animation, moi je suis arrivé aussi avec Mathilde qui va s'occuper d'interroger tes projets et ton travail ici dans la résidence.
Bonjour,
salut Mathilde.
Bonjour. Donc, Ange, vous êtes auteur, illustrateur, réalisateur. Vous avez déjà illustré 2 livres, créé la bande dessinée Yuri avec votre frère à la musique. Vous avez réalisé en 2011 un court-métrage, El Bosque, qui s'inspire librement du tableau de Bosch, Le Jardin des Délices, qui est aussi disponible sur votre chaîne YouTube. Ouais. Et vous êtes donc en ce moment même en résidence à Cyclic pour votre prochain court-métrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours dans l'animation et ce qui vous a mené à la réalisation ?
Je viens surtout du dessin, de la bande dessinée un peu, qui était un peu ma passion d'enfance, d'adolescence. J'ai étudié à Saint-Luc, donc j'étais surtout de l'image fixe, animée, dans le sens de la bande dessinée. Et après, je me suis mis un petit peu à la peinture, j'ai un peu ouvert, essayé d'ouvrir un peu mes horizons picturaux. Et en fait, c'était un peu dans les années 2000, et moi j'étais resté très rétif, j'avais étudié encore, j'étais encore de cette génération qui a étudié sans ordinateur, les arts graphiques, la bande dessinée. Et j'étais assez rétif à l'informatique, au numérique, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est peut-être intéressant, on va voir ce qui se passe. Et donc j'ai acheté un ordinateur, je me suis mis un petit peu tout seul à Photoshop, c'était un peu le grand moment de flash. Et j'ai vraiment découvert un peu l'animation par flash, voilà. En plus, j'ai eu de la chance parce que c'était un peu le boom Internet de 2000-2001, donc c'était un peu le Far West. Les gens n'étaient pas très formés, mais tu touchais à peine à un truc, tu pouvais trouver du boulot assez facilement. Et en fait, donc c'est un peu par ce biais, là, en faisant des petits dispositifs animés, qui n'étaient pas vraiment des courts-métrages, mais des petits dispositifs animés, m'entraînant un petit peu pour Flash, que très naturellement, enfin, ça a été un peu une extension de ma pratique du dessin. Et donc j'ai travaillé un petit peu pendant un an, je me suis formé un peu tout seul. Et ensuite, je suis parti en Argentine et j'ai un petit peu continué à faire une pratique de dessin qui s'est assez orientée vers les arts scéniques, participer à des spectacles de danse, de théâtre, de cirque. Quelquefois en étant sur scène, quelquefois en dessinant sur scène, mais quelquefois en projetant des animations, voilà. Donc c'est petit à petit, après j'ai fait un jeu vidéo avec mon frère, là, inspiré du personnage Yuri. Voilà, donc ma pratique d'animation est un petit peu variée et un petit peu ponctuelle. Et puis j'ai fait pas mal de clips, j'ai accompagné des groupes de musique, dont celui de Carlos Massinger.
I want to say goodbye qu'on a écouté. C'était un clip musical, c'était pas un court-métrage, c'était l'illustration d'un morceau.
Ouais, exactement, c'était un clip musical. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, il faisait beaucoup de chansons, c'était super chouette, et voilà, c'était l'occasion, il m'a dit tiens j'ai ça te plaît. Bon, il y avait 3 titres, et il y avait ce titre-là moi, que j'aimais beaucoup.
Et donc vous êtes français, mais vous venez de le dire, vous vivez depuis plusieurs années en Argentine. Mm-hmm. Est-ce que ça a changé votre manière de créer, d'être en Amérique latine ?
Je pense que oui, d'une certaine manière. Moi, je crois que j'ai eu un peu le besoin un peu de quitter la France ou de quitter un petit peu le cadre dans lequel je vivais, plus précisément, parce que j'étais assez confortable. Mais je crois que je m'ennuyais un petit peu d'une certaine manière, enfin pour des raisons un petit peu personnelles, particulières. Et à un moment, je me suis dit, c'est peut-être pas mal de bouger, de tenter un peu de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul quand on arrive dans un pays ? Est-ce que je serais capable de me faire des amis ? Est-ce que je serais capable de trouver faire des projets ? Ouais, c'était un peu des questions que je me posais. Et voilà, pour différentes raisons, je suis parti vers l'Amérique du Sud, l'Argentine, et j'ai commencé à apprendre la langue. Et je crois que oui, dans le sens, c'est un pays avec une très 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 grande créativité. Les gens font beaucoup de choses, les gens se forment beaucoup. Les artistes, les gens sont toujours à suivre des ateliers. Alors tous les artistes aussi enseignent pratiquement pour des raisons de manière privée, de manière un peu à la maison, disons, ou dans des ateliers, pas dans des institutions, je veux dire. Alors il y a très peu de sous, il y a très peu d'appui, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Donc en fait, moi j'ai fait plein de choses vraiment très très autoproduits. Ou très très peu d'argent, un spectacle de scène, il y avait un petit peu d'argent, mais je travaillais plutôt à côté. Donc ça m'a quand même appris à essayer de faire des choses.
Et sur l'aspect collectif, ici, tu produis ton court-métrage tout seul ou t'as une équipe avec toi ?
C'est la première fois que je suis un peu dans un vrai cadre, c'est pas ce que ça veut dire un vrai cadre, mais dans un cadre un petit peu professionnel, un petit peu encadré, avec une boîte de production, avec des appuis financiers de partie de la région, du Cyclique en particulier bien sûr maintenant, du CNC. Donc c'est un peu nouveau pour moi, donc ça permet aussi de faire des choses que je pouvais pas faire avant, et aussi de travailler avec d'autres personnes. Alors ce film, c'est vraiment un film que je fais ici à Cyclique, je le fais avec Eleonora Comelli, qui vient plutôt des arts du théâtre, justement de la danse, et c'est elle qui est venue un jour avec un projet, une nouvelle d'un écrivain uruguayen, Félix Hernandez. Vous connaissez un peu mon travail, elle m'a proposé de faire ça. Et donc il y a elle, là, qui est depuis le début là-dessus. On est en co-réalisation, on fait la co-écriture. Et alors après, moi, je m'occupe plus spécifiquement de l'animation, de la réalisation. Mais bon, il y a toujours son regard qui est très important. Et pour moi, c'est important aussi. J'aime bien ne pas être seul, pas devoir prendre toutes les décisions toute seule, tout ça. Je trouve ça épuisant. Et c'est très difficile aussi. Il faut avoir une grande confiance. Bon. Et alors, et donc, on a un producteur en Argentine, Sébastien Manusovic, de l'agence Matisse, de la production Matisse. Et on a, depuis un an et demi, Christophe Camoirano, que j'ai rencontré à Annecy, au pitch, en faisant des pitchs à Annecy.
Dont vous parlez, Eric, tout à l'heure.
Ouais. Voilà, de gérer le production. Et en gros, c'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui va faire le son, qui a commencé à faire des essais. Puis là, il y a une animatrice, Emma Zwickert, qui m'aide, qui me donne un coup de main sur l'animation. C'est un gros boulot. Et pour ne pas devenir fou, c'est bien de...
Justement, est-ce que c'est bénéfique du coup d'être dans un lieu de création de partage comme Cyclique ?
Ah bah carrément, hein, c'est un grand luxe. C'est très... Non mais c'est vrai, c'est très très précieux. Hein. Surtout pour quelqu'un comme moi. Enfin moi, qui vient vraiment de choses, vraiment de faire des projets ou de faire des films avec pas d'argent du tout. Alors là, c'est très 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 bénéfique. D'abord parce que c'est un environnement de travail, fait pour ça, pensé pour ça, bien pensé pour ça.
Tu peux nous dire avec qui tu partages ton quotidien en termes de nationalité, de façon d'animer les films qui sont en parallèle des tiens
Bah bien sûr, et puis là aussi, c'est ça aussi l'autre point, c'est un peu le point de rencontre, le point d'échange. L'animation, c'est vraiment, je pense, un métier où il y a très peu de stars, en fait, et il y a très peu d'esprit un peu star. Parce que c'est quand même un truc très exigeant, très artisanal. Donc c'est souvent des personnalités assez riches, assez tranquilles, assez modestes. Et l'échange justement par rapport à cette pratique qui est très particulière, pouvoir pas se sentir tout seul dans cette pratique, c'est très très important. Et alors ici, il y a pas mal d'équipes. En face de mon studio où je travaille, il y a Benoît qui est sur un unitaire de 25 minutes. Voilà, il nous a montré l'autre jour, on a fait un petit tour justement des différents ateliers pour voir un peu. Parce qu'on est tellement pris chacun par son projet que finalement on est là depuis un mois et on passe tous les jours devant la porte, on voit le voisin qui travaille et on sait pas ce qu'il fait. Et on parle de tout, d'animation, d'autres choses. Et après, quelquefois, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est trop long. Et donc, le jour, on s'est dit, bon,
on se pose,
voilà. On va voir ce que fait chacun. Et on a fait ça et c'était sympa. Tout au fond du bâtiment, dans les bureaux, dans les espaces plus de stop motion, où il y a un espace de construction, il y a un espace de matériel, il y a un espace de plateau. Parce que stop motion, là, ça a vraiment sa raison d'être une résidence parce qu'il y a vraiment tout un dispositif technique de lumière, de plateau, d'éclairage, de fixation des choses. Et là, il y a Max Héroux qui avait fait Negative Space. Alors, si je sais les noms de famille,
on
je
en
ne sais,
parlait,
je
enfin,
sais
c'est
pas.
C'est une des pierres fondatrices pour moi de Negative Space qui est allée très loin, donc qui a été sélectionnée aux Oscars.
Exactement.
Et qui est un super film que j'ai montré à Mathilde avant de venir faire la lorgnette. Hein, un très grand film.
Exactement, un très grand film. Et alors, c'est très beau, je trouve aussi, de voir une équipe qui a fait un film comme ça, qui a une très grande
renommée, oui.
Résonance, qui travaille d'une manière très, très minimale, très, très artisanale. Tu vois, les réalisateurs, ils s'occupent vraiment de plein de choses, mais parce que c'est comme ça, ça fait partie du truc. Et donc voilà, ça c'est très agréable de les côtoyer. Il y a eux qui sont là. Il y a Mathilde Bédoué qui avait fait Été 96, qui est dans la salle un peu plus d'animation traditionnelle. Et il y a Lorraine Fernandez et Kim, dont je ne me souviens pas le nom de famille, qui font une série pour Arte, Apicracy, sur les perversions un petit peu dans la manière de nous faire travailler, de nous faire vivre, de nous faire consommer.
Là, tu es en train de l'expliquer, Cyclique, c'est des structures qui aident dans la réalisation de vos projets, d'un point de vue logistique et créatif. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière ?
Je crois que tout ce qu'on fait, ça sert. C'est sûr que j'aurais adoré avoir ça. Je ne serais pas arrivé à Cyclique parce que je ne pense pas que j'aurais...
Oui, ou dans d'autres résidences, bien sûr.
Bien sûr, j'aurais adoré. Est-ce que j'en aurais profité autant ? Peut-être pas, parce que j'étais peut-être un peu dans ma bulle, un peu planant comme ça, mais bien sûr, oui, j'aurais adoré. Là, d'ailleurs, il y a plein de... Je suis presque le plus vieux du truc, hein, je ne suis pas si vieux que ça, mais je suis presque le vieux des résidents. Il y a beaucoup de jeunesse, là, c'est agréable, quoi.
Et du coup, c'est ta première fois dans une résidence ?
Dans une résidence d'animation, oui.
Ok.
On a fait des résidences avec des spectacles en Colombie, au Brésil, enfin quand on était en Argentine. Donc des résidences plus vraiment scéniques, des résidences de troupes. Et voilà, mais dans une résidence d'animation, carrément.
Eric nous disait tout à l'heure que les projets, en général, c'était quelques semaines, 6, 8, 10, 12 peut-être. Toi, tu vas être là un an, pourquoi ? C'est quoi l'avantage d'être là un an entier ? Pour ce film.
Ça permet de réaliser un film, ça permet de faire un film, ça permet de terminer un film, j'espère. Voilà, parce que c'est un film d'animation traditionnelle en banc titre, c'est-à-dire en prise de vue réelle. Numérique, c'est la caméra, mais sinon le dessin est vraiment sur une plaque de verre avec de l'encre de gravure. Je vais faire pratiquement toute l'animation tout seul, aidé par Emma Zwicker. Mais donc, comme ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'images à faire, voilà, ça permet de le faire dans des bonnes conditions. On peut penser bien à ça, on ne perd pas de temps dans les trajets, et puis voilà tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on est avec d'autres équipes, ça permet de... Bon, enfin, il y a quand même des projets qui restent quelques mois. C'est vrai que là, un an, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais quelques mois, il y a quand même pas mal de projets. C'est vrai que les projets en développement restent plutôt un mois, deux mois, mais les projets en réalisation restent quelques mois. Je vais voir passer toutes les saisons, ouais. Et je vais voir passer défilé, pas mal d'équipes, pas mal de, ça c'est chouette. Moi je suis ravi, hein, cette petite immersion française, vendômoise, cyclicoise, c'est très bien.
Mais donc là, du coup, un an pour la réalisation. Le nouveau projet, L'Amourère Paris Sida Ami, a aussi remporté le prix Alhambra au MIFA Pitch en 2023. Du coup, donc, on voit que c'est quand même un projet qui prend du temps. Comment est-ce que ça gère, on va dire, sur le temps personnel ?
Mais en fait, je pense que le temps est aussi... Dans notre cas, ça a été un allié, en fait. Je pense que ce temps qu'on a passé, ce temps qu'a pris le développement... En fait, il y a deux choses. Il y a le développement qui est toute la préparation du film depuis l'idée première. Comment on va le faire ? Quelle technique ? Quelle manière de raconter ? Quelle narrative ? Quel langage qui termine avec le scénario, un storyboard, une animatique qui est une espèce de storyboard un petit peu monté qui permet d'avoir la durée un peu du film, ce qui est important en termes de production pour savoir quel temps ça va durer, quel travail ça va nécessiter. Alors ça a pris du temps, c'est vrai, parce que le film on l'a même commencé en 2020, hein, donc ça fait quand même 5 ans qu'on est là-dessus. Mais finalement dans notre cas, alors après c'est sûr, au début ça a beaucoup changé, je pense que ça a pas mal mûri. En final, je trouve vraiment que ce temps, il nous a servi de rajouter de comprendre mieux ce qu'on voulait faire, de définir mieux ce qu'on voulait faire, de le rendre un peu plus fort, d'avoir une certaine distance déjà sur ce qu'on avait déjà mis. Donc de rajouter une couche, rajouter une autre couche, rajouter un autre truc, d'élaguer aussi beaucoup. Donc dans ce cas-là, la réalisation, en fait, c'est vraiment, on rend la chose réelle, comme vont la voir les autres, mais toute la préparation, qui est un moment très agréable, en fait. Hein. Après, là, on l'a fait ces dernières années, on a pu avoir un peu de sous quand même, soit en Argentine, soit un peu de la France. Enfin, pas tellement de la France, plutôt de l'Argentine, pour le développement. Donc là, c'était agréable parce qu'on était quand même dans un peu moins de précarité. On a pu terminer, faire le scénario. Et c'est vrai que pouvoir travailler pour moi, par exemple, 2 mois sur le scénario avec Virginie Boeda, qui est une scénariste avec laquelle notre producteur Christophe de Jiren nous a mis en contact, pour retoucher le scénario qui était déjà fait. Hein. C'était un grand luxe. Et pour être un peu payé avec ça, c'est incroyable. Donc moi, je dirais que dans notre cas, je pense qu'après, en effet, moi, avant, je me disais, ouais, le cinéma, ouais, les gens, ils traînent un projet depuis 5 ans, c'est l'enfer. Comment ils ne perdent pas le désir ? Comment ils ne perdent pas le désir ? Comment ils continuent à... Et je ne comprenais pas. Et maintenant, en fait, je comprends. Je trouve qu'on traîne le truc et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit... Ça l'enrichit petit à petit, ça fait gagner, j'espère, hein, en épaisseur. Donc après, on se sent peut-être un peu plus sûr quand on commence à réaliser. Mais après, c'est toujours une aventure. Hein,
Je n'ose croire que tu ne seras pas sollicité pour faire partie durant cette année de présence sur le Vendômois pour faire partie des rendez-vous dont on parlait avec Eric, des rendez-vous avec les résidents, des rencontres avec le public. Comment est-ce que tu appréhendes ? Est-ce que tu attends ça avec impatience ? Est-ce que tu seras content, stressé de montrer ton travail en cours ?
Bah, j'ai le temps parce que c'est en juillet pour moi. Là,
ok, donc ça
je stresse pas trop. Je stresse pas trop. Bah, non, mais je trouve que c'est bien. L'autre jour, on a vu, samedi dernier, on a vu
ouais, il y avait
la présentation de Lorraine Fernandez là, pour ouais. sa série Apicratie. La salle était pleine, c'était chouette, il y a eu des questions.
Ça donne envie.
Ah, bah oui, bah, moi, ça va me stresser un peu, ça, ça c'est sûr. Et, mais bah, c'est pas très compliqué de parler de ce qu'on fait tous les jours, vu qu'on est plein de ça. C'est donc.
Avec plaisir.
Voilà, donc c'est plutôt sympa aussi de montrer ce qu'on fait.
Et justement, en parlant du Vendômois, est-ce que tu te sens intégré dans la ville ?
Alors là, ça fait quand même un mois et demi que je suis là, c'est peut-être un petit peu court. Et puis c'est vrai que Cyclique, c'est une résidence, donc comme disait quelqu'un il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est pas une colonie de vacances, mais il y a ce côté petit monde un ouais, peu autonome. Monde, ouais. Donc le fait de ne pas être seul, donc ça te dit pas, bon, quand même, il faut que j'aille boire un verre, rencontrer des gens dans la ville. Là, il y a un peu moins, il peut y avoir hein, cette envie-là, bien sûr. Mais par exemple, j'étais très heureux d'aller au festival
des
Rocomotives. Ouais. J'ai adoré. Là, des trucs dans la chapelle, l'ouverture, ou un autre jour, là, on était là. On peut se faire ça dans cette chapelle magnifique, je trouvais ça magnifique. Enfin, je trouvais ça super. Il y avait le groupe Compromat que je suis depuis quelques années, que je n'avais jamais vu en live. Là, c'était genre, ah, il passe à Vendôme. Là, je ne m'attendais pas à ça, je trouvais ça quand même. Vachement bien.
Ouais.
Donc bah là, et puis ouais, c'était un peu le moment de voir, sans vraiment les rencontrer, parce qu'après, je suis pas non plus parlé avec tout le monde, mais de revoir un peu la faune vendômoise, tout ça, c'était ouais. Mais en fait, ouais, je suis arrivé à un moment parce qu'il y avait le festival La Biennale, là, où il y avait aussi des activités juste à côté, là, mais... l'assemblage, ouais. La Biennale d'art contemporain. Puis ouais, on va un peu au Loup-Perché de temps en temps, avec où il se passe des trucs, c'est sympa. C'est adorable, quoi. La ville, c'est quand même joli, c'est un cadre très très bien. Donc. Au-delà des gens de Cyclique.
Merci beaucoup Ange.
Ouais,
on suivra éventuellement donc ton travail pour le public, les habitants qui viendront à la rencontre donc de ton travail en juillet prochain. En attendant, des rencontres, on l'a dit, sont régulièrement organisées et des projections. Je rappelle donc dans ce trimestre anniversaire qu'il reste d'ici à la fin donc deux rencontres, deux rendez-vous qu'on signale. Oui, on ne manquera pas de le refaire dans le shaker dans notre agenda culturel. Mardi 2 décembre à 20h30 donc. Un happy birthday, une sélection de courts-métrages dédiés aux anniversaires pour fêter vos 10 ans en bonne et due forme avec du cinéma d'animation. Et puis la fête de fin d'année du Centre Culturel, donc ce sera mercredi 17 décembre à 15h pour le jeune public. Merci beaucoup Eric.
Merci.
Merci Ange
d'avoir
témoigné de ton quotidien de créateur, de réalisateur de courts-métrages d'animation. Ici, c'est la fin de cette lorgnette. On était ravis de vous la proposer depuis les bureaux, depuis les locaux de la résidence Cyclique Animation. L'émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec moi.
Merci.
À très bientôt et les programmes continuent sur Studio ZEF. Salut.